Je suis Benjamin Ribaud, je suis très heureux d'être avec vous pour le lancement de cette série de webcasts sur les sujets du M&A organisé par les équipes 10 de PwC. Donc, durant cette heure, nous allons débattre avec trois spécialistes du sujet, à la fois ESG et 10, pendant une quarantaine de minutes. Puis après, nous aurons une session de Q&A d'environ 20 minutes. Vous avez déjà été nombreux à poser des questions via le formulaire d'inscription et aussi je vous encourage à continuer à poser des questions durant le débat ou à partager aussi vos avis et votre expérience afin d'enrichir cette heure de webcast. Pourquoi nous avons choisi le thème de l'ESG pour lancer cette série de webcasts? En fait, cela vient d'une étude de PwC réalisée fin 2001, « The Economic Realities of ESG », où cette étude avait été réalisée auprès de 325 investisseurs, à la fois des gestionnaires d'actifs, des banquiers et aussi des analystes financiers. En fait, cette étude était très riche d'enseignements et trois ont particulièrement retenu mon attention. Le premier enseignement, c'était que l'ESG était devenu mainstream. En effet, on a 79% des répondants qui considèrent que l'ESG est un facteur important dans leur prise de décision d'investissement. Et même, on a 82% en fait de ces répondants qui souhaitent que l'ESG fasse partie intégrante de la stratégie des entreprises. Le deuxième enseignement concerne le rendement qu'on attend sur ce type d'investissement. En effet, nous avons 75% des répondants qui sont prêts à sacrifier une partie de leur rentabilité à court terme pour pouvoir investir sur des critères ESG. Et même, par contre, quand on gratte un peu plus, on s'aperçoit que seulement 81% sont prêts à faire un effort inférieur à 1% de leur rendement. Donc, on voit qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Et enfin, le troisième enseignement, c'est sur le reporting ESG. C'est là où le bât blesse, parce qu'on s'aperçoit que seulement 33% des répondants trouvent que l'information dans les reporting ESG est de qualité. Et notamment, les principaux défauts sont un manque d'information à la fois complète, mise à jour, pertinente, et donc une faible capacité à pouvoir comparer les entreprises les unes par rapport aux autres et donc à réaliser une allocation de capital optimale. Et donc, pour décrypter cette étude, mais aussi décrypter l'actualité et les tendances du M&A, je me suis entouré des meilleures compétences de ce que l'on fait de mieux chez PwC, à la fois sur les sujets ESG et sur les sujets DIS. Et donc, je suis avec mes trois experts aujourd'hui. Donc, Émilie Bobin, Émilie qui est donc associée développement durable et aussi leader ESG pour nos activités consulting et co-leader ESG pour nos activités DIS. Bonjour Émilie.
Bonjour Benjamin et bonjour à toutes et à tous.
Françoise Gintrac, qui est associée DIS et qui est donc co-leader ESG pour nos activités DIS avec Émilie.
Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous.
Et enfin, Fabien Radizic, donc Fabien qui est associé avocat DIS et qui est aussi leader ESG de nos activités Tax Legal Social pour la société PwC, société d'avocats. Bonjour Fabien.
Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous.
Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà je vais vous poser une première question qui est simple en apparence et qui est quelle est votre définition à vous, à titre personnel, de l'ESG?
Merci pour cette première question, Benjamin. Alors effectivement, l'ESG, déjà pour que tout le monde parte avec cette même notion, l'ESG, ça veut dire environnement, social, gouvernance. Donc personnellement, ça fait presque 20 ans que je travaille sur ces sujets. Et en fait, cette notion d'ESG, ou en tout cas cet acronyme, est apparue début des années 2000. En fait, on parle, tu m'as présenté en tant qu'associé développement durable, on parle de développement durable, de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, donc d'ESG, d'ISR aussi, investissement socialement responsable. Donc tout ceci veut dire la même chose, c'est utilisé par différents acteurs. Et ça a un seul objectif, transformer notre économie vers un monde qui soit vivable, alors qu'on a des enjeux environnementaux et sociaux qui se dégradent. Donc l'objectif est vraiment d'avoir tous les acteurs, que ce soit les acteurs privés, publics, la société civile aussi, qui aillent dans le même sens. Et j'ai même tendance à dire, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc, il faut vraiment avoir la contribution de tous sur ces sujets.
Françoise ?
Alors, moi, je définirais les considérations ESG comme un petit peu un changement de paradigme et qui consiste pour les entreprises à intégrer finalement, dans leur stratégie, les relations, les interactions qu'elles ont avec toutes les parties prenantes, que ce soit les clients, les fournisseurs, les employés et les collectivités, les biens collectifs, et finalement à considérer toutes ces parties prenantes comme contributeurs et bénéficiaires de la création de valeur au sein de l'entreprise, au même titre un petit peu que les actionnaires.
Merci Françoise. Les yeux de l'avocat sur cette définition.
Merci Benjamin. Et moi, je rajouterais que, en fait, l'ESG est en train de passer d'un monde de soft law à un monde de plus en plus réglementé, ce qui veut dire que les entreprises doivent se préparer de plus en plus. Hein. Je citerai un exemple d'actualité, la question de la déforestation importée. L'Union européenne vient d'adopter une législation applicable dans les prochains mois, 18 à 24 mois, qui interdira en fait tous les produits issus de la déforestation. Donc c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'adaptation. Donc voilà, l'ESG d'aujourd'hui, c'était pour moi aussi un élément de différenciation entre les entreprises qui se sont lancées dans cette transformation et celles qui ne s'y sont pas encore lancées.
Bon, merci pour ces trois définitions très complémentaires. Si on rebondit sur l'étude et le premier enseignement qui était l'ESG devenu mainstream dans les investissements, moi, j'aimerais poser la question, c'est est-ce que vous pensez que l'ESG est aussi devenu mainstream, donc d'actualité, dans les deals, dans les opérations de M&A ? Françoise ?
Oui, alors, ça ne se fait pas forcément, ce n'est pas du jour au lendemain, ça fait un certain nombre de temps, effectivement, que c'est quand même une considération, et Émilie en reparlera peut-être aussi, ça fait longtemps qu'elle fait des due diligence. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on est vraiment quand même à un point d'inflexion, ou un petit peu une accélération. Et ceci pour différentes raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'entreprises qui ont intégré et lancé des plans de transformation ESG. Donc, nécessairement, dans le cas des opérations de fusion, acquisition, cession, ces éléments sont regardés, appréhendés dans le process. La deuxième raison, qui est certainement assez importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a, je pense, une majorité des acteurs qui considèrent qu'il y a une corrélation positive entre les qualités ESG et la valeur. Et donc, un certain return, un return qui est attendu de ces éléments et de la performance ESG. La troisième raison, c'est la réglementation qui se renforce. On en reparlera certainement un petit peu plus tard, mais qui devient plus précise, qui couvre un nombre plus important de sociétés. Donc ça, je pense que c'est également un facteur qui influence la prise en compte de ces considérations dans les process M&A. Et puis, j'ajouterai quand même une quatrième considération, c'est ces parties prenantes dont je parlais, qui sont de plus en plus présentes et avec des moyens d'action de plus en plus forts. Hein. Donc, que ce soit les clients, les employés qui ont des pouvoirs d'action hein, à travers les médias ou à travers ne serait-ce que leur comportement d'acheteur.
Fabien.
Moi, je dirais que les entreprises qui mettent en avant leur transformation hein, et leurs actions en vue de leur transformation doivent faire attention à leur message. C'est un sujet de transparence, en fait, hein. Puisqu'il ne doit pas y avoir un écart trop important entre leur réalité et les messages qui sont véhiculés. Il y a aussi un sujet de cohérence. Quand on se lance dans une transformation ESG, il faut que cette transformation concerne tous les aspects de l'entreprise. On ne peut pas communiquer très fortement sur l'environnement ou le social, et mettre en avant certaines valeurs très fortes, et en même temps, pour prendre l'exemple de la fiscalité, avoir sur la fiscalité, par exemple, une politique fiscale très, 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 très agressive. Si l'entreprise venait à se faire redresser, vous voyez bien la divergence qu'il pourrait y avoir entre l'image véhiculée d'un côté sociétal sur l'environnement et puis après l'image sur la contribution à l'impôt. La divergence, ça donne un petit peu...
Donc, il faut être cohérent sur les trois jambes de l'ESG, à la fois le E, le S et le G.
Exactement. Ouais.
Et donc, ce que je retiens, notamment l'intervention de François, c'est l'ESG est mainstream dans les deals. Là-dessus, vous qui nous regardez, n'hésitez pas aussi à partager vos avis, votre expérience, si vous avez des visions un peu différentes, surtout enrichissez le chat, on en discutera après dans la session de Q&A. Donc si l'ESG est mainstream dans les deals, on va pouvoir regarder de manière concrète et très opérationnelle comment cela se traduit dans les process M&A, d'où ma première question pour vous, Émilie, c'est comment vous voyez concrètement l'implication de l'ESG dans le processus M&A.
Alors, je voudrais simplement revenir sur ce que disait Françoise. Et ce qui est très important, c'est qu'on voit que l'ESG aujourd'hui est de plus en plus intégré dans la stratégie des entreprises. En fait, les directions M&A, elles sont là pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc, en fait, elles ont un rôle qui est juste majeur dans l'accélération de la transformation ESG. Et donc, on voit de plus en plus ces sujets-là, effectivement, dans les deals, que ce soit les deals M&A corporate et aussi pour les investisseurs. Et on reviendra aussi sur ces deux pans. Donc, je voudrais adresser deux grandes étapes dans les deals et dans les transactions. L'origination et les due diligence, et également avoir un point aussi rapide sur le financement. Donc au niveau de l'origination, il y a trois choses qu'on observe et qui sont regardées, sur lesquelles on peut intervenir. Ça fait de nombreuses années qu'on a ce qu'on appelle du negative screening, c'est-à-dire avoir une liste d'exclusion. Donc on n'investit pas dans certains domaines. On a aussi, et de plus en plus aujourd'hui, accéléré par la réglementation, on y reviendra, notamment la taxonomie, ce qu'on appelle du positive screening, c'est-à-dire une vraie volonté, dès le départ, d'investir dans des activités dites durables. Et enfin, troisième chose, c'est le regard sur le profil ESG de l'entreprise, puisque on va intégrer une activité dans un ensemble qui est déjà constitué. Donc, pour revenir sur la cohérence, quand on a un certain nombre d'engagements, finalement, les directions M&A, quand elles vont intégrer un certain nombre d'activités dans cet ensemble constitué, il faut qu'il y ait une cohérence, ou en tout cas, derrière, et c'est là où on passe à la due diligence, on va avoir un regard précis sur où en est telle ou telle activité pour comprendre ce profil ESG de départ. Comprendre aussi quels sont les efforts à mettre en œuvre pour aligner une activité aux engagements et aux actions de l'entreprise qui rachète. Et aussi même ce qu'on regarde de plus en plus, et là c'est en lien aussi avec les réglementations qui se renforcent, c'est quelle est la maturité de l'entreprise, de l'activité cible sur les sujets de reporting ESG et à quel point il va falloir faire des efforts pour faire remonter toute cette information. Donc, en due diligence, pour rajouter aussi, on a, et ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, des analyses sur l'alignement de la taxonomie, donc avec les différentes étapes de l'éligibilité, l'alignement qui passe aussi par différentes étapes, avec certains connaissent les DNSH et les minimum safeguards, qui sont vraiment des étapes assez cruciales pour l'alignement à la taxonomie. On a aussi des analyses, ça qui nous sont demandées au départ, sur création, protection de valeur aussi, et tous les impacts qu'il peut y avoir, que ce soit top line, EBITDA. Donc, on a de plus en plus d'évaluations aussi des conséquences financières de l'ESG. Et je voulais donc terminer par ce point sur le financement qui me paraît important, parce qu'aujourd'hui, l'accès et le coût de la dette est clairement impacté par l'ESG. Et j'ai tendance à dire, j'aime bien les petites punchlines, no ESG, no money. Clairement, aujourd'hui, on est dans cette situation.
D'accord, on va finir sur cette belle punchline, no ESG, no money. Fabien, vous partagez complètement le constat d'Emilie ou vous avez aussi un avis complémentaire?
Tout à fait, je partage le constat d'Emilie. Et pour rajouter, c'est vrai qu'on est sur un point d'inflexion. Et donc aujourd'hui, les entreprises, un point d'inflexion de déréglementation en fait. Hein, et donc aujourd'hui, les entreprises, elles nous demandent d'abord de faire un état des lieux, où est-ce qu'on en est par rapport à la réglementation en vigueur, mais aussi, puisqu'il y a un calendrier assez précis des réglementations qui vont arriver, de déterminer le reste à faire, hein, et donc de mettre en place un chemin de transformation. Voilà. Et par rapport à ça, nous, on transforme nos travaux pour vraiment avoir deux phases quand on regarde une entreprise, une phase d'état des lieux, et puis dessiner une feuille de route afin de justement calibrer tous les efforts et voir à terme quels seront les effets positifs ou négatifs des réglementations attendues sur la valeur de l'entreprise. Ouais.
D'accord, ok. Donc, en deux étapes. Okay. D'un point de vue personnel, on a le processus M&A, mais on a aussi tous les sujets de valorisation. Et François, j'ai oublié de mentionner en introduction, en vous présentant, que vous étiez aussi un membre éminent de la Société française des évaluateurs. Ma question, ça serait quels sont les impacts en fait des critères ESG sur la valorisation des entreprises ?
Alors, la question de la valorisation, elle occupe aussi, aujourd'hui beaucoup l'esprit des équipes M&A, que ce soit dans les entreprises, dans les fonds d'investissement, des banquiers d'affaires, de toute la communauté des évaluateurs, je dirais. C'est une question compliquée parce qu'on parle de beaucoup de critères en matière ESG, on parle d'éléments essentiellement immatériels et peut-être le plus immatériel de l'immatériel. Donc, et aujourd'hui, l'historique sur les marchés est compliqué à analyser, à interpréter. Alors, ceci étant, j'aimerais quand même partager quelques réflexions et pistes, je dirais. La première chose, c'est que les méthodes d'évaluation traditionnelles demeurent parfaitement adaptables et adaptées d'ailleurs pour traduire dans l'évaluation d'une entreprise, d'une cible, les critères ESG. Le premier élément, évidemment, où ça peut être traduit, c'est bien sûr dans les agrégats, où aujourd'hui on est capable, sur un certain nombre d'éléments, hein, d'estimer les impacts financiers de certains éléments, que ce soit sur les questions environnementales, sociales ou même de gouvernance, et de voir les effets à différents niveaux. Et je pense que c'est important aujourd'hui de commencer à appréhender ces questions-là, à les chiffrer, dans l'appréciation, l'estimation d'un EBITDA récurrent, par exemple, ou des flux. Le deuxième élément, c'est que, et ça c'est peut-être un peu plus nouveau, c'est qu'il faut peut-être avoir un regard et un prisme un peu plus moyen-long terme en matière d'évaluation que court-moyen terme, comme on peut l'avoir souvent, afin de bien traduire l'impact sur la valeur des questions ESG qui nécessitent quand même du temps pour être prises en compte. Et surtout, je crois que ces éléments sont des facteurs très importants dans la durabilité d'un business. C'est une question qui, traditionnellement, historiquement, ne se posait pas trop, de se dire quelle est la durée de vie de mon business, finalement. Et on a toujours pensé qu'elle était un peu indéfinie, hein, que ce soit dans des approches de multiples ou la méthode des discounted cash flow qui sous-entend et applique en général une rente à perpétuité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut bien analyser effectivement les éléments ESG et se poser la question de la durabilité du business, en plus du rendement et du risque, et envisager éventuellement des durées de vie finies, des érosions de rente aussi, hein, sur des modèles qui, n'étant pas suffisamment sustainable, risquent d'être challengés, de ne plus dégager, même si c'est à l'infini, les mêmes niveaux d'excess profit. Et donc, tout ça doit se traduire dans un certain nombre d'ajustements.
Donc, en fait, ça, c'est important. Émilie qui parlait de no ESG, no money. Avec vous, François, c'est no ESG, no future.
Ah, peut-être. on peut s'adapter quand même. Je pense que c'est là où, justement, si on est bon en ESG, on arrive à être résilient et à avoir un futur.
Ouais, j'aurais peut-être à rajouter, Benjamin, par rapport à ce que vient de dire Françoise, rajouter quelque chose par rapport aux acteurs investisseurs du non-coté, pour qui ce sujet-là est extrêmement important à intégrer dans les sujets de deal et de transactions. Et tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que c'est mainstream ? Je pense que pour ces acteurs-là, ça devient vraiment mainstream. Et donc, ces acteurs, et notamment l'association professionnelle du private equity qui est France Invest a monté et a lancé il y a un mois, je crois, un groupe de travail sur création de valeur et ESG pour essayer d'appréhender justement les impacts financiers et les impacts sur la valeur de sujets ESG. Et donc, on a la chance et le bonheur avec Françoise d'accompagner ce groupe de travail-là. Et on voit que là, on est dans le dur, vraiment pour évaluer cela et essayer de trouver des approches méthodologiques qui puissent accéder à ce type de conséquences et évaluer cet impact financier de l'ESG.
Ok, donc on se retrouve dans quelques mois, même endroit pour,
voilà, avant
avoir,
l'été,
les conclusions du groupe de travail.
Exactement.
Okay. Bon, mais ça, c'est parfait. Fabien, on était sur la valorisation, très chiffre, très finance. Joker pour l'avocat, vous avez aussi quelque chose à dire sur
le sujet. Ouais, allons-y. L'avocat a toujours quelque chose à dire. Si je peux dire quelque chose, il faut voir aussi que certaines réglementations ESG donnent à des acteurs comme à des associations des moyens d'interpeller les entreprises sur leur obligation en matière de ESG. Je voudrais citer la question du devoir de vigilance. Aujourd'hui, les entreprises ont des obligations en matière, les grandes entreprises ont des obligations en matière environnementale et en matière de droits humains. Elles doivent surveiller tout ce qui se passe dans leur chaîne de valeur. Et les contentieux commencent à naître. Je voudrais citer l'exemple de quelques marques de la grande distribution ou de l'agroalimentaire qui viennent de se faire interpeller par des associations sur leur gestion du plastique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces associations ont envoyé une lettre et une mise en demeure à ces entreprises pour leur demander des explications sur leur politique et sur leur devoir de vigilance sur le plastique. Elle laisse un certain temps aux entreprises pour répondre, et puis après, si la réponse est jugée insatisfaisante, les associations se réservent le droit de lancer des procédures en justice sur des contentieux nouveaux, mais qui peuvent à terme avoir un impact sur la valeur des entreprises si ce genre de contentieux se développe. Donc là aussi, c'est un point de vigilance.
De vigilance, ouais, non, c'est très bien parce que l'ESG, ce n'est pas que la création de valeur à long terme, ça peut être aussi de la destruction de valeur à très court terme. Sujet qui est toujours dans le domaine opérationnel des transactions M&A. On avait vu que dans l'étude, le troisième enseignement, c'était la faible reporting ESG. Et donc l'idée, la question derrière, c'est comment améliorer le reporting ou les diligences sur le sujet ESG dans les deals pour rendre les choses beaucoup plus comparables et pertinentes. Émilie.
Alors, il y a un peu deux questions dans ta question. On a le sujet de la comparabilité et on a le sujet de la qualité de l'information. Je vais revenir sur des éléments réglementaires en essayant de ne pas trop rentrer dans le détail, mais quand même un petit peu pour bien comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer et les conséquences, notamment sur les deals. Donc, l'Europe s'est vraiment attaquée aux deux sujets, comparabilité, qualité de l'information. La réglementation européenne, aujourd'hui et dans les 5 prochaines années, va vraiment faire évoluer le reporting qu'on appelait extra-financier à un reporting de durabilité. Ça peut paraître un détail, mais c'est extrêmement important, puisqu'on voit tout de suite dans cette différenciation qu'on a un impact sur les éléments financiers. Donc on ne parle plus de reporting extra-financier, mais s'il vous plaît, voilà, tout le monde doit parler de reporting de durabilité. Donc, on passe de la NFRD à la CSRD. En termes de comparabilité, vraiment, je pense que l'Europe, et on est en train de s'en apercevoir, a dit non au greenwashing, terminé le greenwashing, et au fur et à mesure, voilà comment l'Europe s'y prend. Première chose, on en entend beaucoup parler, la taxonomie. Qu'est-ce qu'une activité dite durable, au sens de la taxonomie ? On ne pourra plus dire « je suis durable, je suis green, je suis sustainable » et compagnie. Sans suivre vraiment cette nomenclature de la taxonomie. Donc aujourd'hui, elle est presque au démarrage, elle est en cours de définition. Donc c'est ça qui est le plus complexe à appréhender pour les entreprises et pour les investisseurs. Mine de rien, on a vraiment une définition qui aujourd'hui va être très claire et va avoir des conséquences sur les deals, j'en parlais tout à l'heure. On va faire et réaliser des deals M&A en fonction aussi de ça pour avoir des activités dites durables. Autre sujet pour les investisseurs, mais qui ont des conséquences aussi pour les entreprises et dans les deals, donc la réglementation SFDR, plus connue sous le nom de règlement disclosure que connaissent bien les investisseurs. On parle là de transparence. Et une des choses importantes à retenir par rapport à SFDR, c'est que les investisseurs, quand ils montent des fonds, quand ils lèvent des fonds, doivent définir le type de fonds. Est-ce que c'est des fonds, alors pour le jargon et ceux qui l'utilisent quotidiennement et aussi pour les autres, on parle d'article 6, article 8, article 9, c'est maître de l'ESG de plus en plus, et même article 9, c'est vraiment un investisseur qui a des objectifs d'investissement durable. Donc une vraie volonté de réorienter les flux d'argent vers ces activités dites durables. Donc on voit tout de suite les conséquences derrière sur les deals, on ne fait plus les mêmes deals. Et pour aller vers les entreprises, là ça fait, je pense en France, plus de 20 ans que les entreprises, au départ les entreprises cotées, puis les entreprises de plus de 500 personnes, 100 millions de chiffre d'affaires, et on va vers les entreprises de plus de 250 personnes et 40 millions de chiffre d'affaires. Donc on voit que, Françoise le mentionnait tout à l'heure, on a de plus en plus d'entreprises qui sont concernées par ces réglementations, ont l'obligation de réaliser des reportings sur les sujets ESG, de plus en plus précis. Et là, la future donc, CSRD va être, et ça c'est complètement nouveau en termes de comparabilité, va être normée. On va avoir donc de nouvelles normes qui sont en train d'être réalisées par l'EFRAG, et ça s'appelle donc les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards. Donc voilà, on va avoir des nouveaux standards. Donc en termes de comparabilité, là on a la taxonomie, SFDR aussi, la CSRD, et via les nouvelles normes qui vont du coup permettre de comparer les reportings d'une entreprise à une autre. Donc là, on est sur le sujet de la comparabilité. Et ce que je peux peut-être rajouter, c'est qu'au-delà de l'Europe, parce que là, j'ai beaucoup parlé de l'Europe, les autres juridictions aussi développent ces types de standards. Et on peut même penser aux normes IFRS, qui sont très connues par les acteurs financiers. On va avoir, l'IFRS va développer l'ISSB, et notamment le président qui est très connu de nous Français, qui s'appelle Emmanuel Faber, est à la tête justement de l'ISSB. Pour terminer sur la qualité de l'information, là et aussi dans la réglementation CSRD, va demander et d'ici 5 ans d'avoir des audits d'information qui soient au même niveau que les audits qu'on connaît aujourd'hui sur l'information financière. Donc là, et en même temps, on n'imagine pas que ces questions ESG qui prennent énormément d'importance, qui sont dans les stratégies des entreprises, qui sont regardées dans les deals, aussi dans les évaluations, ne soient pas au même niveau de qualité que l'information financière. Et je pense que ça intéresse énormément, et Françoise y reviendra certainement, les évaluateurs, d'avoir toutes ces données et aussi qu'elles soient de grande qualité. Donc, ouais, je t'ai passé un peu la balle.
Ah oui, c'est clairement une attente forte, je pense, des évaluateurs et de tout l'environnement M&A. Aujourd'hui, il y a clairement, l'information n'est pas suffisante pour intégrer ces paramètres, je dirais, de manière appropriée dans l'évaluation. J'en parlais tout à l'heure. Il y a une enquête récemment qui a été faite par l'IBSC, l'International Valuation Standard Committee. Plus de 95% des répondants disent qu'ils n'ont pas l'information nécessaire pour traduire et appréhender la valeur liée, en positif ou en négatif, hein, liée aux considérations ESG. Donc je pense que le monde du M&A attend beaucoup de la mise en place de cette réglementation et de l'enrichissement qui est prévu au cours des 3, 4, 5 prochaines années de l'information sur tout le rapport durabilité et qui permettra beaucoup de comparaison d'ailleurs aussi entre les entreprises.
Et donc, Émilie, ce que je comprends, vous qui êtes dans la partie depuis 20 ans, hein, qui est une des pionnières de l'ESG, j'ai l'impression que sur les 5 prochaines années, on va faire autant, si ce n'est plus, que les 20 dernières.
Oui, non, mais clairement, il y a une vraie accélération et on le voit bien, hein, tout le monde s'y met. Et cette accélération aussi, elle vient du fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on contribue tous. En fait, on a certaines réalités physiques, si on parle du changement climatique, ouais, qu'on a tous de toute façon observées. Donc voilà, il y a une vraie accélération ces 5 dernières années, je suis complètement d'accord avec ça.
Et là, on était sur les sujets opérationnels, en fait, donc à la fois le dit continuum, l'impact de l'ESG sur les différentes étapes d'un process M&A, la valorisation, le reporting. Mais si on prend un peu plus de hauteur et qu'on se place sur le sujet, en fait, stratégique, donc en quoi les équipes M&A peuvent être co-créateurs de la feuille de route ESG? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Alors, c'est envisageable et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait de vrais échanges entre les directions RSE, si elles s'appellent comme ça, RSE Développement Durable, et les directions M&A. Il y a un vrai dialogue qui doit se faire et une co-création de cette feuille de route. Je le disais tout à l'heure, l'ESG devient stratégique pour les entreprises et la direction M&A, elle est là pour appliquer cette stratégie. Donc, on voit cette logique. Et donc, clairement, et comme tu disais, moi qui suis dans ce métier-là depuis de nombreuses années, quand je vois justement cette accélération et certains acteurs qui accélèrent le mouvement, je vais dedans et donc je fais un certain nombre d'appels. Et effectivement, on voit tout de suite que les directions M&A, elles vont être là pour accélérer ce mouvement. Donc, il faut que les directions M&A maîtrisent absolument ces notions ESG, les conséquences stratégiques et opérationnelles qu'elles peuvent avoir. Donc, dès l'origination, les due diligence, parce qu'après, les conséquences, on les voit au moment de la durée de détention, notamment si je prends aussi l'exemple des investisseurs. Donc, complètement d'accord avec ça.
Fabien, ton point de vue ?
Tout simplement dire que avec la montée en puissance des réglementations, le point d'inflexion dont on parlait tout à l'heure, l'environnement réglementaire qui se complique, on a un certain nombre de points ou d'écueils ESG à bien cerner. Et bien entendu, dans son appréciation des risques, les équipes M&A doivent être au fait de toutes ces réglementations pour permettre un diagnostic le plus fiable possible. Oui, bien entendu.
On peut même rebondir sur un sujet qui est d'après moi le retour du risque dans les opérations M&A et dans la valeur. On a oublié ces dernières années qu'investir c'est risqué et je pense que l'actualité nous a remis ça au centre du débat. J'aimerais maintenant aborder un autre sujet parce que depuis tout à l'heure on parle de manière assez générale de l'impact de l'ESG sur les opérations M&A, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir pas un mais plusieurs ESG, et notamment ma première question en fait serait concernant en fait, est-ce que vous voyez des différences de comportement ou d'attitude de la part des investisseurs, que ce soit à la fois des fonds d'investissement, à la fois des sociétés, des grands groupes ou des ETI ou des PME là-dessus, si quelqu'un a une vision, Fabien ?
Je voudrais citer l'exemple des entreprises familiales, où souvent on se pose la question du sens, qui est au cœur des préoccupations ESG. Les entreprises familiales qui sont proches des territoires, qui ont des soucis de transmission et de transmission aussi d'un certain nombre de valeurs, peuvent se faire les porteurs d'un certain nombre de valeurs ESG. Et je dirais que les nouvelles générations sont vraiment au centre de ce combat. On voit de nombreuses entreprises familiales qui veulent de plus en plus se doter de chartes ou même qui vont jusqu'à mettre en place des notions d'entreprise à mission.
Françoise ?
Oui, alors il y a effectivement des différences. Je pense que toutes les entreprises s'intéressent au sujet. C'est vrai que les grandes entreprises, pour certaines et notamment les cotées, ont pris des engagements publics importants en matière de décarbonation, par exemple, avec des engagements forts sur une neutralité carbone et des dates. Donc, devront être au rendez-vous. Et je pense qu'il y a aussi évidemment des disparités quand même en fonction des secteurs d'activité. Bien évidemment, ce qui est assez logique.
Moi, ce que je peux peut-être ajouter, en tout cas donner un peu d'historique pour revenir aussi sur l'historique de l'équipe. C'est une équipe développement durable qui a été créée il y a presque 30 ans maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment a démarré un peu comment ont démarré les sujets ESG pour les entreprises. Notre premier client donc historique était Rhône Poulenc. Et donc à l'époque, on était vraiment sur des sujets ESG très orientés sur les risques environnementaux, les risques de sécurité au travail. Et donc, tout ceci a évolué. Donc, forcément, il y a une différence de maturité entre les secteurs qui ont eu un très fort impact il y a de nombreuses années, les industriels notamment. Et au fur et à mesure, en fait, tous les secteurs aujourd'hui sont concernés, toutes les tailles d'entreprises aussi, puisque quand on a, comme disait Françoise, des engagements de grands groupes, derrière, il y a aussi les fournisseurs qui peuvent être des toutes petites entreprises, des TPE, des PME. On parlait des acteurs du non-coté, les investisseurs dans le non-coté aussi engagent leur portefeuille d'entreprise vers ces sujets-là. Donc aujourd'hui, vraiment, tout le monde est concerné, tous les secteurs d'activité, côté non-côté, toutes les tailles d'entreprise. Donc, forcément avec des maturités différentes. Et ce qui est extrêmement important, et pour revenir sur le sujet aussi tout à l'heure de la due diligence dans les deals, un des passages clés quand on est en due diligence, c'est réellement de faire une analyse de matérialité et de se dire tu parlais des ESG tout à l'heure, quels sont les enjeux ESG les plus significatifs pour l'entreprise. Et en tant que bon européen, on parle de double matérialité, c'est-à-dire l'impact de l'entreprise sur des enjeux environnementaux et sociaux, et aussi l'impact de ces enjeux-là sur des éléments financiers de l'entreprise. On a vraiment ces deux choses-là. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser cette question-là au départ, avant de rentrer dans le détail de ces sujets.
Ce qui est intéressant dans votre réponse, c'est que vous avez parlé de la couverture sectorielle, et donc là, les ESG aussi, ça peut être selon les secteurs. Est-ce que vous voyez des différences fondamentales entre les différents secteurs, Françoise ?
Il y a quand même un certain nombre de différences. Alors, il y a un sujet, je pense, où la différence est la plus marquée, qui est quand même le sujet du climat. On voit d'ailleurs que la réglementation, la taxonomie, s'attaque au climat en premier. C'est quand même aujourd'hui le premier sujet sur la table et le premier sujet de transformation, de décarbonation. Donc, quand on regarde l'exposition des secteurs à cet enjeu, il est effectivement différent. Et on a fait un petit exercice qui est intéressant, qui est de regarder un résultat décarboné, un petit peu à l'image de ce que fait un des groupes du CAC 40 français. Mais quand on déduit un coût des émissions de carbone, toutes les entreprises cotées au niveau européen, on voit que la baisse de l'EBITDA est très variable selon les secteurs. Et ça va de 0,5% à 43% de l'EBITDA pour certaines entreprises. Donc, on voit bien que, évidemment, les secteurs liés à l'énergie notamment et les industries sont fortement affectés sur ce critère-là. Bien évidemment, c'est un des critères ESG, ce n'est pas le seul, mais c'est celui aujourd'hui qui capte beaucoup d'attention quand même et surtout d'euros en matière d'investissement pour décarboner.
Émilie,
Peut-être ce que je peux ajouter, pour continuer à dire que tous les secteurs sont concernés, certains effectivement plus que d'autres, et il y a aussi certains sujets à adresser plus que d'autres. Le climat, je pense qu'aujourd'hui, clairement, on a vraiment l'argent qui a été réorienté vers ces sujets. Juste pointer, puisque ça, c'est d'actualité par rapport à la COP15, la biodiversité, typiquement, c'est un sujet où il y a un manque crucial de financement. Là aussi, on voyait bien un certain nombre d'acteurs qui disaient manquer de données et d'informations pour évaluer l'impact biodiversité. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On a vraiment de plus en plus de manières d'évaluer l'impact sur la biodiversité. Donc ça, c'est très bien. Et je fais un peu de teasing, publier prochainement une étude sur le financement de la biodiversité. Et aussi, ça, c'est intéressant de voir les besoins en financement d'un côté, le manque qu'il y a, et nous, on est là aussi pour orienter un peu la façon dont on peut financer ce type de sujet.
D'accord. J'ai oublié de préciser qu'on est près de 400, un peu plus de 400 inscrits à cette webcast, donc pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, on adresse tous les secteurs, encore une fois, à partager une problématique particulière dans votre secteur et à la communiquer via le chat, on essaiera d'y répondre durant la session de Q&A. Qui va bientôt arriver parce qu'on est déjà à la fin, malheureusement, de ce débat. On est dans le dernier module qui va être un peu la projection. Donc, deux questions là-dessus. Première question sur les perspectives en fait, de l'ESG dans les deals. Donc, si vous devez sortir la boule de cristal, quelles sont les prochaines tendances à venir dans les 12-24 prochains mois que vous voyez dans l'ESG dans les deals?
Alors j'aime bien la boule de cristal. Alors il y a des choses qu'on voit arriver et qui sont assez certains, puisque je ne suis pas Madame Soleil, mais je vais vous en donner quelques-uns, et notamment pour redonner la punchline, vraiment no ESG, no money. Je pense qu'on est clairement là dans cette situation et ça va de plus en plus aller dans cette direction. Et là encore, on ne parle pas uniquement de grands groupes cotés, on parle aussi des PME, des toutes petites entreprises qui, pour accéder à l'argent, au financement, ont besoin aussi de se muscler sur ces sujets ESG. L'ESG impacte clairement les deals aujourd'hui. Chez les investisseurs, ça devient clairement mainstream. On le voit de plus en plus dans les deals M&A. Je pense que d'ici 2-3 ans, ce sera standardisé et ce sera communément réalisé. Et pareil, je ne voudrais pas spoiler Françoise, mais en termes de valorisation aussi, moi j'imagine bien dans les 2-3 prochaines années voilà, que ce soit intégré.
Oui, alors au-delà de la valorisation, donc moi ce que je vois quand même beaucoup se développer, c'est que aujourd'hui, les considérations ESG sont quand même beaucoup dans les diligences qui sont faites, hein, les acquisitions. Ce qu'on a dit, c'est que le M&A est aussi au service de la stratégie ESG et de sa mise en œuvre. C'est vraiment ça, moi, que je vois se développer. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore très peu de ciblage, de targeting, d'opérations d'acquisition qui sont faites uniquement hein, pour aller chercher des compétences, hein, s'améliorer, améliorer ses performances ESG. Je pense que ça va beaucoup se développer. D'autant plus qu'il y a certaines compétences qui sont très compliqué, je pense, à développer en interne. Et ce sera uniquement grâce au M&A que certaines entreprises vont pouvoir améliorer leur performance. J'ai vu, par exemple, sur le recyclage, hein, des capacités à recyclage, qui devient un petit peu indispensable. C'est assez particulier. Et quand on est distributeur ou producteur, on n'est pas spécialisé dans le recyclage. Et donc, acquérir une société qui fait du recyclage, ça permet évidemment d'accélérer très fortement ses compétences dans le domaine, la mise en place d'une filière complète de recyclage conforme aux meilleures pratiques en matière environnementale. Et donc là, le M&A a vraiment un rôle à jouer, certainement d'ailleurs aussi à s'adapter pour être capable et en capacité de faire ce type de deal. Mais on est là pour aider.
Très bien.
Bah, montée en puissance des réglementations, on l'a déjà dit. Point d'inflexion, on l'a déjà dit. Donc, l'enjeu pour les entreprises, ça va être d'appréhender toute cette nouvelle réglementation, puisque bah, il va falloir s'y retrouver. Hein. C'est-à-dire, il y a une accélération, beaucoup de règles. D'abord, il va falloir apprendre à les connaître. Il va falloir en tirer les conséquences sur la vie quotidienne des entreprises, sur les chaînes de valeur. Et donc, nous, de notre côté, bah, on va les accompagner dans tout ça. Mais dans le processus de M&A, on va devoir apprécier l'endroit où se trouve l'entreprise dans son processus de transformation et ainsi tout le reste à faire. Et nos travaux en matière juridique sont très complémentaires des travaux que Émilie réalise des équipes, puisqu'on est un petit peu la brique d'après, et donc une complémentarité de nos missions qui va monter en puissance.
Très bien. Et donc j'aimerais finir avec cette dernière question, parce que dans les gens qui nous regardent, on a un éventail très très large et très riche en termes de fonctions et de compétences. Hein. On a des directeurs M&A, des directeurs juridiques, directeurs ESG, des directeurs financiers, des directeurs de participation, de fonds d'investissement, on a des banquiers, voilà, on a quand même un panel très 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 large. Donc qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour ces spécialistes en fait qui travaillent dans les M&A aussi au jour le jour et qui nous regardent?
Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est formez-vous de toute urgence à ces sujets-là. Et on s'applique à nous-mêmes ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que chez PwC, on forme toutes les équipes à ces sujets-là, avec aussi des spécificités sur les sujets climat. On va lancer prochainement toute une formation sur les sujets de biodiversité également. Donc voilà, on s'applique les choses à nous-mêmes. Et on voit bien, Sylvain Lambert à l'époque était le seul associé. Maintenant, on est 3 associés sur ces questions dans l'équipe. Et on a aussi chez PwC une 30aine d'associés qui travaillent sur ces questions ESG et qui l'intègrent là. Je suis très contente aujourd'hui de faire d'ailleurs cette table ronde sur ces sujets ESG avec vous trois, puisque ça montre justement que ces formations et l'intégration dans nos métiers est cruciale. Et ça nous permet justement d'adresser ces sujets de deal aussi ensemble, que ce soit avec des spécificités d'une expertise ESG, des aspects juridiques très forts, des éléments aussi de valorisation, conséquences financières. Voilà, donc formez-vous de toute urgence si j'ai un conseil à donner.
Et c'est aussi un critère d'attractivité.
Ah oui, complètement. Enfin, nous-mêmes, du coup, on le voit dans nos équipes. Hein, dès qu'on va travailler sur des deals où il y a une orientation ESG, on voit tout le monde qui lève la main. Donc, c'est clairement la situation. Je pense que tout le monde l'observe aussi.
Les attentes des plus jeunes.
Ah oui, complètement, complètement.
Françoise ?
Alors, oui, j'ai peut-être deux choses. La première, c'est dans la suite de ce que je disais, hein, du M&A qui peut servir à développer et accélérer hein, les compétences ESG ou les qualités ESG. C'est peut-être les équipes M&A vont avoir, doivent regarder peut-être de manière un petit peu plus large qu'elles ne le faisaient en termes de champ d'investigation pour identifier des cibles. Parce que, effectivement, sur ces sujets-là, il faut peut-être aller chercher sur des typologies d'entreprises qui sont un peu différentes en termes de taille, de structure même capitalistique. Ça peut être des associations, ça peut être des sociétés mixtes, des centres de R&D, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est bien évidemment sur l'évaluation, où je pense qu'il faut commencer à apprécier ses qualités et peut-être à intégrer des premiums, des petits discounts hein, en fonction de l'appréciation qu'on peut avoir parce que c'est véritablement, je dirais qu'aujourd'hui, la corrélation avec la valeur est établie et on peut attendre véritablement un return de l'amélioration de ses qualités ESG.
Fabien ?
Donc, quel conseil pour les spécialistes M&A en matière juridique ? Faire une analyse en deux temps. Pourquoi ? État des lieux, prospective, et la raison, c'est celle qu'on a évoquée tout au long de cette discussion, c'est l'accélération, l'inflexion des réglementations. Donc, les entreprises vont devoir s'adapter. Il faut savoir déjà aujourd'hui où elles se situent. Et puis après, demain, se poser la question de savoir si le reste à faire est très important ou pas. Voilà.
Ok. Très bien, mais merci à tous les trois encore pour ce débat. On a un peu débordé par rapport au timing initial. Vous venez d'expliquer de manière assez claire et en fait les différents enjeux de l'ESG dans les deals. On essaie d'être le plus complet possible. Et donc maintenant, on va attaquer la session de Q&A. Merci beaucoup. On a reçu beaucoup de questions. On en avait eu en avant et en reçu. Moi, ce que j'arrive à voir, c'est à peu près des grandes familles entre les ce qui est lié au deal ou les sujets de reporting notamment. On a aussi quelques questions iconoclastes et je vais commencer par une question iconoclaste de Christelle qui est étudiante à l'université Paris Cité et qui demande est-ce que les équipes développement durable de PwC prennent des stagiaires, Émilie ?
Bon, pour répondre rapidement, oui. Oui, beaucoup.
D'accord.
Voilà.
Voilà, c'était pour une mise en bouche sur le sujet. Alors, sur les sujets, on a beaucoup de questions sur les sujets de reporting. On va commencer par ça, après on ira sur les sujets EDIS. Donc, sur les sujets de reporting, il y avait un premier, c'est quand projetez-vous, donc Emma qui a posé la question, quand projetez-vous que les Corporate Sustainability Reporting Directives seront obligatoires pour les sociétés non cotées ?
Alors, déjà, on a la réglementation actuelle NFRD. Sur l'obligation de reporting qui est pour les entreprises cotées, mais aussi pour les entreprises non cotées de plus de 500 personnes et 100 millions de chiffre d'affaires. Donc les non cotées sont déjà concernées. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a 11 000 entreprises européennes qui sont concernées avec la future CSRD donc, qui va démarrer en 2025 sur le reporting 2024. Où là, on va avoir de plus en plus de sociétés qui vont être plus petites. Mais en tout cas, les non-cotés sont déjà concernés. Et en plus, le non-coté est concerné aussi quand on regarde le prisme investisseur, où on a la taxonomie, la NFRD. Je parlais des acteurs membres de France Invest tout à l'heure, donc les investisseurs en private equity, qui aussi ont des engagements et regardent ces questions ESG. Donc, le non-coté est déjà aujourd'hui complètement concerné.
Alors, il y a aussi beaucoup d'utilisation d'acronymes. Et donc, il y a Frédéric qui pose la question, que sont les ESRS ? Alors, ce n'est pas le European Sleep Research Society. Hein.
Oui, je crois que c'est le premier.
La première recherche sur Google, on tombe là-dessus.
On tombe là-dessus.
Ouais, donc,
c'est European Sustainability Reporting Standard. C'est nouveau, en fait, hein, dans le paysage de l'ESG, du reporting ESG français et européen. Et donc, on va avoir, comme le pendant qu'on a sur le financier, des normes qui sont réalisées par les FRAG, et c'est complètement en cours. Là, on a eu le draft final qui a été publié. Donc, et d'ailleurs, on a énormément de projets en ce moment pour se mettre en ordre de marche, pour suivre ces normes ESRS.
D'accord. Après, j'avais une question qui est un peu, celle-là, c'est un peu, voilà, je ne sais pas quoi, si elle est simple en apparence, donc de Benjamin, qui demande, existe-t-il une grille universelle présentant les indicateurs de performance extra-financiers à observer ?
C'est le Graal. Non, alors, universelle, non. Par contre, on va vers ça, et quand on parlait de SRS, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, on est à un niveau européen. Il y a une vraie volonté du régulateur européen, également américain, de faire converger, en fait, ces différentes normes de reporting. Il y a une volonté, c'est déjà pas mal, puisqu'on partait de quelque chose qui était complètement inexistant. Et je parlais tout à l'heure aussi des IFRS et des normes ISSB. On va aussi vers ça, comme le reporting financier. Donc après, pas pour rajouter encore des acronymes, mais on connaît la GRI, Global Reporting Initiative, où on a un certain nombre d'indicateurs qui sont donnés. Au niveau européen, mais tout ceci va converger, hein, mais au niveau européen, on parlait de la population des investisseurs qui, eux aussi, ont ce qu'on appelle des indicateurs sur les PAI, Principal Adverse Impact. On a aussi des indicateurs qui vont être donnés par les ESRS, si tout le monde me suit, et tout ceci est en train de converger. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que sur les sujets de reporting ESG, on est parti de un peu en mode débrouille avec tout un tas de choses, impossibilité de comparer une entreprise par rapport à une autre. Pour un investisseur, c'était aussi un peu cauchemardesque. Aujourd'hui, on va vraiment vers plus de comparabilité, encore une fois, qualité de l'information.
Merci beaucoup, Émilie. Là, on va peut-être prendre une série de questions sur tout ce qui est lié au deal. Et j'ai une très bonne question de Sylvain qui demande, est-ce que la France a un marché spécifique sur le sujet ESG dans les deals ? Ou est-ce que vous voyez dans d'autres pays des questions aussi, ce même type de questions dans l'univers des deals ?
Bah, les échanges que l'on a avec nos associés, hein, dans les différents pays, les questions sont assez proches et similaires. Hein, et bon, en tout cas, sur l'Europe, Amérique du Nord, Asie, les questions sont vraiment très similaires. Hein. Alors l'Asie, pour l'instant, n'est pas tellement concernée par la réglementation et la communication qui créera peut-être un petit peu de décalage. Je ne sais pas, mais en tout cas, d'un point de vue deal, on sent les mêmes considérations.
Oui, effectivement, quand on parle, que ce soit la population d'investisseurs ou même de corporate, on agit, il n'y a pas de frontières, quoi. Donc, on agit vraiment partout dans le monde. Donc, on a des sollicitations vraiment dans tous les pays. Bien sûr, après, il y a une adaptation qui va être culturelle, réglementaire. Effectivement, l'Asie est peut-être un peu moins présente, mais c'est en train aussi d'arriver sur ces questions. Donc, on a besoin d'ailleurs d'avoir des équipes en local. Toutes les équipes en local sont formées à ces questions. Mais vraiment, on a démarré un peu plus tôt en France, mais aujourd'hui, c'est vraiment mondial. Et enfin, d'ailleurs, les enjeux, ça aussi, hein, les enjeux environnementaux, sociaux, n'ont pas de frontières.
Alors, j'ai une question, je pense qu'on l'a traitée en partie durant le débat, mais bon, je la pose, c'est la question de Jacques, qui est comment concilier ce sujet qui est délicat entre intérêt de rentabilité, profitabilité à court terme et moyen terme, et durabilité de l'entreprise à long terme.
Je ne sais pas si tu veux te lancer. Parce que tu l'as évoqué tout à l'heure.
Exactement, ouais. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'effectivement, le retour à long terme des investissements, qu'il soit sous forme de charge ou d'investissement, il est positif. Et c'est ça qui fait qu'on est véritablement un point d'inflexion pour les entreprises, je pense. Donc après, c'est un arbitrage qu'ont tous les investisseurs, qui est rentabilité court terme versus long terme. Donc, mais je pense qu'à long terme, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de projets. De projet d'amélioration des qualités ES et G qui sont créateurs de valeur.
Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact des réglementations qui peuvent bousculer fortement les chaînes de valeur des entreprises et pour le coup les amener à s'adapter. Hein. On citait en introduction la question de la déforestation importée, c'est-à-dire que quand les entreprises européennes vont devoir apprécier l'origine de tous les produits issus de la déforestation, ça va créer beaucoup de boulot. Hein. Là, on parle quand même de traçabilité à base de repérage satellitaire, traçabilité à partir des parcelles. Enfin bon, on est quand même sur quelque chose qui peut être majeur comme impact sur la chaîne de valeur. Hein.
Très bon enchaînement sur une question qui est à la fois du réglementaire et de la valorisation, qui est bonjour, où en est de Léo, où en est la législation sur la taxe carbone en France et en Europe, s'il vous plaît.
Ouais, pour en parler, c'est un sujet d'actualité, puisque ce matin, la Commission européenne, enfin le Parlement européen et les États viennent d'adopter définitivement ce que l'on appelle la taxe carbone. En fait, bon, à proprement parler, ce n'est pas une taxe, hein, puisque les entreprises vont devoir acheter des quotas carbone, mais la réglementation, elle est là, elle est prête, et elle va s'appliquer dans les prochains mois. Hein. Donc ça ne va pas concerner toutes les activités dans un premier temps, ça va concerner les activités qui sont considérées comme étant les plus polluantes, hein, le ciment, l'acier, l'électricité, bon, voilà. Mais c'est là, c'est à notre porte. Donc, on voit bien que dans le New Deal, enfin le Green Deal européen, il y a un certain nombre de milestones qui avaient été posés et que l'Europe est là pour faire respecter ce calendrier et le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières en est l'illustration.
Et j'ajouterais, ça c'est les quotas obligatoires, mais il y a aussi les entreprises qui ont pris volontairement des engagements de neutralité et qui achètent pour certaines d'ores et déjà de manière volontaire des crédits carbone. Il y a d'ailleurs le marché réglementé et puis le marché libre ou marché volontaire avec une tarification qui n'est pas la même, mais qui effectivement est là et se développe.
Ouais, et puis il suffit de voir l'évolution du prix du carbone, hein, puisque la tonne de carbone était quelque part aux alentours de 15-20 euros il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à 85-90 euros la tonne. Donc,
Et là aussi, le MNE peut rendre service. Hein, c'est un très bon exemple, puisqu'on a vu un ou deux deals comme ça, c'est-à-dire de faire des acquisitions qui permettent d'acheter des sociétés qui produisent des crédits carbone. Comme ça, on se couvre quelque part. Et on n'aura pas besoin, une entreprise n'aura pas, de fait pas besoin dans 2 ou 3 ans d'aller acheter des crédits à un moment où aujourd'hui on ne sait pas quel sera le prix et tout le monde pense et anticipe une augmentation assez forte.
Il nous reste 2 minutes, 2 questions. Quelle est votre vision sur l'importance de la dimension S? Question de Philippe. J'ai l'impression que le focus est surtout E. Pour l'instant, sans doute à juste titre, car c'est le plus visible et le plus quantifiable.
Alors, bon, pas de mon prisme en tout cas. Clairement, le S est très, très présent. On avait hier d'ailleurs une interview avec Françoise d'un journaliste. On a beaucoup développé là-dessus. Aujourd'hui, notamment, si je reviens sur ce qu'évoquait Fabien sur le Green Deal, c'est vrai que Green Deal, il y a Green. Donc, ça donne cette sensation forcément que c'est très environnement. En fait, pas du tout. L'Europe n'a pas oublié de parler de transition juste et vraiment d'intégrer le social à tous les niveaux et dans toutes les réglementations. Quand on parlait, et souvent, j'entends dire la taxonomie, elle n'est que environnementale. Alors, c'est vrai, effectivement, aujourd'hui, on a 2 objectifs environnementaux sur le climat. On va avoir les 4 autres prochainement, je ne vais pas donner de date, qui sont aussi sur l'environnement, et plus tard, une taxonomie sociale. Sauf que la taxonomie environnementale, pour être alignée, il faut passer par un certain nombre d'étapes que j'évoquais tout à l'heure, et le fameux minimum safeguard, donc s'assurer qu'on intègre bien ces sujets sociaux et ces normes internationales. Et c'est d'ailleurs ça qui a des conséquences, notamment aujourd'hui, par rapport à des sociétés de gestion, des fonds qui ont du mal à être le fameux article 9 ou aligné aussi avec la taxonomie, parce qu'il y a cette dernière étape de minimum safeguard qu'on n'arrive pas forcément à atteindre ou à justifier. Donc vraiment, le social n'est pas du tout oublié. J'évoquais tout à l'heure le sujet de la due diligence et de l'analyse de matérialité. pour certains secteurs, le sujet social va être la priorité des priorités. Je prends un secteur en particulier, où on a fait des due deals dernièrement, le secteur du textile. On parlait de chaîne de valeur tout à l'heure. Dans la chaîne de valeur, il y a un sujet qui est juste crucial, les risques sociaux, les conditions de travail dans la chaîne de valeur. Oui, il y a aussi les sujets environnementaux, mais ce sujet-là, il est juste primordial. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'investisseurs qui refusent d'investir si on n'a pas un management d'une entreprise qui est conscient de ces questions-là, pas forcément très avancé, mais qui est OK pour aller vraiment plus loin sur ces questions. Donc vraiment, moi, de mon prisme, le sujet social n'est pas du tout oublié.
Est-ce que je rajouterais, moi, Benjamin, vraiment 30 secondes, c'est la montée en puissance, en effet, de ces sujets sociaux. Sous deux ans, tout ce qui est inclusion, diversité, et puis aussi le sujet qu'on a devant nous, qui va nous occuper cette année, c'est le sujet du partage de la valeur. Hein. Dans un monde inflationniste, on se pose la question de savoir comment on partage la valeur, et ce sont vraiment des questions qui nous remontent un petit peu partout, que ce soit des gestionnaires de fonds, des participations, des différents groupes, c'est vraiment quelque chose qui remonte aujourd'hui, le partage de la valeur. Ouais.
Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on va arrêter. On est arrivé sur le timing. Donc, je voulais vous remercier hein, à tous ceux qui ont participé à cette webcast et qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup aussi à ceux qui ont posé des questions. On essaie de répondre à un maximum de questions. On va continuer à regarder toutes les questions, essayer de vous répondre en direct. N'hésitez pas à continuer à nous solliciter. Vous pouvez aller sur les profils LinkedIn de nos experts, vous connecter et leur poser des questions ou les contacter par email. Ils se font une joie, je pense, c'est un plaisir de continuer à débattre avec vous de ces sujets. Ce que j'indiquais, c'est qu'en fait, on est dans un cycle de webcasts. Donc, chaque deux mois, vous allez avoir une webcast qui va traiter des sujets M&A. Le prochain sujet sera en février sur les sujets de value creation, ce qui n'est pas une gageure dans le sens où est-ce qu'on peut encore continuer à créer de la valeur dans un monde avec des pandémies, des guerres et le retour du risque, comme le soulignait Fabien. Donc, on va adresser ces sujets-là. Et donc, je tenais encore à remercier Émilie, Françoise et Fabien pour vos éclairages et vos convictions. Merci beaucoup à tous les trois. Et donc, merci à tous. Bonne journée et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.